Quand quelqu'un fait la liste de son patrimoine, il inclut ce qu'il a en biens propres, comme une maison, une ou plusieurs voitures, un bateau, des meubles, un capital en banque, des actions et peut-être aussi des droits à ceci ou cela. La somme de ce qu'il possède est physique et matérielle, elle peut être comptée et distribuée. Mais il existe aussi des possessions morales et spirituelles qui sont attachées à la personne et donc non transmissibles. On les emporte avec soi dans l'éternité. Par exemple, celui qui a placé sa foi en Jésus a reçu la vie éternelle. Il a droit à une entrée gratuite dans le royaume des cieux, où il sera également propriétaire de différents biens, mais il ne peut pas en faire profiter directement quelqu'un d'autre, parce que ce sont des dons que Dieu lui a accordés et qui font partie de son patrimoine spirituel pour l'éternité. L'ensemble de ces bénédictions est appelé l'autel par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je continue à lire dans le chapitre 13. Nous avons un autel, mais ceux qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui y est offert. Verset 10. L'auteur compare l'ancienne et la nouvelle alliance. Le cœur du rituel juif et de tout le judaïsme était les sacrifices d'animaux qui pouvaient ensuite être mangés par les prêtres. Mais ici, ceux qui servent dans le sanctuaire représentent tous les Hébreux qui obéissent encore aux règles du système lévitique. Quant à l'autel, et comme je l'ai déjà dit, c'est une figure de rhétorique qui désigne toutes les bénédictions que Jésus a procurées à ceux qui lui font confiance, comme le pardon des péchés, la possibilité de s'approcher de Dieu, le salut et les biens éternels. L'auteur précise ici que ceux qui obéissent au rite de la loi de Moïse ne bénéficient pas des avantages que Jésus donne à ceux qui croient en lui sous le régime de la Nouvelle Alliance. Je continue le texte. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort en dehors de la ville, pour purifier le peuple par son propre sang. Versets 11 et 12. Selon les rites du Yom Kippour, le grand jour des expiations, un bouc et un taureau étaient sacrifiés pour les péchés. Ensuite, le grand prêtre prenait du sang de ces animaux et entrait dans le lieu très saint du sanctuaire, où il enduisait de sang les cornes du propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle du coffre sacré. En ce jour très saint, personne, pas même les prêtres, n'avaient le droit de manger la chair des animaux sacrifiés. Leur carcasse s'était emmenée hors du camp des Israélites, un endroit déclaré profane, puis brûlé. C'était une image du sacrifice du Christ qui est mort sur le mont Golgotha, un lieu profane, hors de Jérusalem, considéré comme la ville sainte. Après la crucifixion de Jésus, il va sans dire que personne n'a mangé de sa chair à l'image du jour des expiations où personne n'était autorisé à consommer la viande des animaux sacrifiés. Cela dit, je suis très conscient qu'une fois Jésus a choqué ses auditeurs quand il leur a dit « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Oui, vraiment, je vous l'assure. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Avant d'interpréter littéralement ces paroles, il faut prendre en compte qu'auparavant et dans le même discours, Jésus a aussi dit « C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Il apparaît donc que manger la chair du Christ et boire son sang signifie venir à lui et croire en lui. Cette interprétation est confirmée par la fin de ce long discours où Jésus ajoute « C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Je continue maintenant l'épître aux Hébreux. Allons donc à Jésus en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. Verset 13. Quand cette épître a été rédigée, Jérusalem, avec son temple, était le centre du judaïsme apostat qui avait crucifié le Fils de Dieu et qui continuait les sacrifices d'animaux, lançant ainsi un défi à Dieu. La crucifixion de Jésus hors de Jérusalem, d'une part, et les rites du système lévitique pratiqués à l'intérieur de la ville, d'autre part, symbolise l'abysse qui existe entre l'ancienne et la nouvelle alliance, deux modèles spirituels absolument irréconciliables. L'auteur exhorte les Hébreux qui sont encore assis entre deux chaises à sortir une fois pour toutes du judaïsme et à accepter Jésus comme leur Messie, même si cette démarche risquait fort d'entraîner le mépris de leurs proches, le rejet par leurs amis et des persécutions. Ils doivent suivre l'exemple de Moïse qui estimait que subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Je continue le texte. Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Verset 14. Les Israélites considéraient le pays que l'Éternel leur avait donné, et surtout Jérusalem, sa capitale, comme leur possession à tout jamais. Mais les croyants, qu'ils soient juifs ou d'origine païenne, ne disposent pas de patrimoine terrestre, car leur héritage et leur demeure permanente se trouvent dans le royaume des cieux. C'est là qu'ils habiteront, la Jérusalem céleste. Je continue. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Verset 15. Sous le système de l'ancienne alliance, il fallait continuellement offrir des sacrifices d'animaux, mais la mort expiatoire du Christ a mis fin à ce régime répétitif. Seulement, il se peut que les Juifs croyants se sentaient en manque d'accomplir des rites et de faire des offrandes. Alors l'auteur les instruit concernant le genre de sacrifices que Dieu désire et qui sont la louange, la reconnaissance et l'adoration, ce qui par ailleurs constitue l'enseignement d'une majorité de psaumes. Je donne un exemple. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Les rabbins disaient, dans le futur, tous les sacrifices cesseront. Mais la louange ne cessera jamais. Soit dit en passant que le croyant peut offrir à Dieu au moins quatre sacrifices différents. La louange, comme cela a déjà été dit, mais aussi sa propre personne. L'apôtre Paul écrit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. » Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. On peut aussi offrir sa bourse. En parlant des églises de la Macédoine en Grèce, Paul écrit « Les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin. » Et ailleurs, Paul remercie des croyants qui s'étaient sacrifiés pour lui. Il écrit J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Quatrièmement, on peut se sacrifier pour les autres, ce que Paul atteste quand il dit « Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Mais il y a aussi le don vivant de soi aux autres, ce qui est dit dans le verset suivant que je lis. « Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Verset 16. L'auteur dit littéralement « Devenez partenaire de ou partagez avec quelqu'un qui se trouve dans le besoin. » Parmi les pauvres qui avaient justement besoin d'assistance, il se trouvait très certainement des Hébreux qui avaient perdu la plupart de leurs biens à cause des persécutions qu'ils avaient endurées du fait de leur foi en Jésus-Christ. Après avoir encouragé ses lecteurs à la louange, l'auteur leur demande donc de passer à l'action. Jésus, en tant que tête de l'Église, est actuellement assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Mais il veut que ceux qui sont ici-bas et qui lui appartiennent soient ses pieds et ses mains. À ce sujet, l'apôtre Jean écrit « Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Et Jacques dit « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Fin de citation. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui sauvent, cependant. Dieu ne veut pas que ses enfants restent les bras ballants, mais qu'ils s'activent. L'apôtre Paul écrit « Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Je continue le texte de l'Épître aux Hébreux. « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. » Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Verset 17. D'une manière générale, toutes les sphères d'autorité et positions gouvernementales de ce monde ont été mises en place par Dieu, même si ceux qui occupent ces fonctions sont des despotes. En fait, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais ils doivent leur pouvoir à Dieu et en dernier ressort, leurs actions ignobles servent ses desseins. Précédemment, l'auteur a demandé aux croyants hébreux de se souvenir de leurs anciens dirigeants. Maintenant, il les exhorte à ne pas faire la forte tête, mais à obéir à leurs responsables actuels, afin de ne pas compliquer leur tâche pastorale. Pour les croyants, l'autorité la plus importante est celle des personnes qui sont fidèles à Dieu et qui observent sa parole. Ce sont de tels hommes dont les églises ont besoin. L'apôtre Paul écrit « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. » Toutes les assemblées que Paul a créées étaient dirigées par des responsables spirituels qu'il choisissait non pas d'une manière arbitraire et dictatoriale, mais avec l'aide d'autres croyants sous la conduite du Saint-Esprit. Dans les églises qui adhèrent aux enseignements de la parole de Dieu, quand un homme est choisi pour la diriger, alors les membres doivent lui obéir tant qu'il reste fidèle aux Écritures, car se soumettre à son autorité c'est être soumis à Dieu. Un pasteur digne de ce nom mérite l'estime de ses brebis parce qu'il se donnera sans compter pour elles. L'apôtre Paul est un exemple à suivre. Il a dit « Pour moi, c'est très volontiers que je ferai des dépenses et que je me dépenserai moi-même tout entier pour vous. Si je vous aime davantage, devrais-je être moins aimé de vous ?» Tout au long de son ministère, Paul a connu bien des déboires et des tristesses, et l'auteur de cette épître probablement aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il demande à ses lecteurs de se soumettre à leurs conducteurs afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant. Ce mot exprime une souffrance intérieure et un murmure non exprimé. Jésus lui-même a connu d'amères déceptions à cause de la dureté de cœur de ses concitoyens. Avant de prononcer des paroles de jugement sur la ville sainte, il a pleuré sur elle, disant « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Si dans son ministère, Paul a gémi, il a aussi connu des joies. Il écrit « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Je continue l'épître aux Hébreux. Continuez à prier pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Verset 18. Dans ce chapitre et concernant les responsabilités du croyant, l'auteur a mentionné la louange, la bienfaisance et l'entraide, la soumission aux responsables et en quatrième lieu, l'intercession. La prière est essentielle parce qu'elle anime la main de Dieu et rend possible ce qui est invraisemblable, improbable et irréalisable. L'apôtre Paul aussi a demandé qu'on intercède pour lui. Il écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance, et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. » Fin de citation. L'auteur de cet épître se dit fidèle au Seigneur car il essaye de mener une vie droite en toutes circonstances. Et s'il mentionne qu'il a une bonne conscience, c'est parce qu'il a usé d'une grande liberté vis-à-vis du judaïsme qu'il a totalement abandonné, sachant au plus profond de lui qu'il a fait la volonté de Dieu. Je continue le texte. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que Dieu me permette de retourner au plus vite auprès de vous. Verset 19. L'auteur ne précise pas sa situation ni pourquoi il est absent, alors qu'il désire être en compagnie des Hébreux auxquels il écrit. Il semblerait qu'il soit emprisonné comme l'était l'apôtre Paul et qu'il est en attente de sa comparution devant un tribunal. En de telles circonstances, il est tout naturel à l'auteur de demander à des croyants qui le connaissent de prier pour lui afin qu'il soit déclaré innocent. Même si cet homme est pieux, il y a tout à parier qu'il ne tient pas spécialement à finir martyr s'il peut l'éviter, et il n'a certainement aucune envie de moisir dans un cachot non plus. Je continue le texte. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Versets 20 à 21. Cette bénédiction reprend plusieurs des thèmes principaux de cet épître, comme la paix qui a été établie par le sang de Christ, une alliance éternelle, la résurrection, Jésus le grand berger, et Dieu qui, littéralement, équipe pour servir, c'est-à-dire qu'il donne aux croyants tout ce dont il a besoin afin qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu et faire ce qui lui est agréable. Dans cette bénédiction, l'auteur appelle la nouvelle alliance, l'alliance éternelle, afin de la contraster avec l'ancienne en rappelant qu'elle n'était que transitoire. Il faut dire que le sang de Jésus a une valeur éternelle, alors que les sacrifices d'animaux de l'ancienne alliance n'étaient qu'un pis-aller temporaire. L'établissement de l'alliance éternelle par Dieu en Jésus-Christ était l'accomplissement de plusieurs prophéties. C'est ainsi qu'Ézéchiel, parlant au nom de l'Éternel, a écrit « Je conclurai avec eux une alliance garantissant la paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. » Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. » Fin de citation. Je continue le texte. Je vous le demande, mes frères, accueillez avec patience ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Verset 22. Le mot pour brièvement signifie court en peu de mots. Il est vrai que cette épître, qui a moins de 10 000 mots, est plus petite que celle que Paul adresse aux Romains ou aux Corinthiens. On peut la considérer comme brève par rapport aux vérités éternelles que l'auteur aborde, parce qu'il ne les développe que succinctement. Par contre, ses démonstrations sont souvent fort complexes. Cette épître est une prédication écrite, directe, qui va droit au but. C'est un appel pressant à tous les Hébreux afin qu'ils se jettent corps et âme aux pieds du Sauveur, abandonnant à tout jamais le système lévitique du judaïsme. Je continue. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Verset 23. On ne connaît aucun détail historique concernant l'emprisonnement du frère Timothée, mais tout porte à croire qu'à l'exemple de Paul, il a été mis au cachot parce qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le désir de l'auteur de rendre visite aux Hébreux en compagnie de Timothée montre l'attitude du bon berger qui se soucie de ses brebis. L'apôtre Paul aussi faisait tout son possible pour rester en contact avec les assemblées qu'il avait créées, en allant sur place autant que possible ou en leur écrivant. Je finis maintenant cette épître. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Versets 24 et 25. Les croyants du premier siècle entretenaient des relations aussi étroites qu'il leur était possible. L'épître se termine très simplement, mais par de très belles paroles. En effet, qui peut dire qu'il n'a pas besoin de la grâce de Dieu dans sa vie?